Et c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, saison 10, du bon air frais, de la forêt. Tous nos sens seront en éveil aujourd'hui.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, qui vous le fait toucher, sentir, goûter et même voir. En radio, c'est une prouesse. On le fait grâce à notre invité qui reviendra régulièrement dans l'EM cette saison. La Forest School, brin d'éveil de Pont-de-Buis les Quimères. Plus exactement, sa fondatrice, Tiphaine Gaillard, qui, dans son coin de forêt au bord de l'Aulne, mène un accompagnement thérapeutique et éducatif. Tiphaine est éducatrice spécialisée et elle accompagne plus spécifiquement des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH ou TDA, des troubles du spectre autistique aussi, TSA. Et d'autres encore, et elle accompagne les enfants dans leur globalité. Ces enfants ont fréquemment des troubles sensoriels, c'est reconnu, même si ce n'est pas encore un critère de diagnostic. Et l'autorégulation est difficile pour elle. Pour ces enfants, notre monde moderne génère souvent du trop, d'où certaines crises. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Alors, quels sont ces enfants? J'en ai parlé un peu, mais les enfants qui peuvent être justement affectés, je ne sais pas si le terme est bon, de troubles sensoriels.
Alors en réalité, beaucoup d'enfants, bien plus que ce qu'on croit, parce que les causes sont assez multiples. Il y a tout ce qui est déjà dans le ventre de la maman qui peut se passer, il y a tout ce qui est génétique, et puis il y a aussi les accidents de vie derrière. Donc ce dont on parle le plus souvent, c'est les enfants avec un TSA ou un TDAH, comme tu viens de le dire. Maintenant, ça nous impacte, enfants et adultes, beaucoup plus largement que ça.
Donc le problème que ces enfants rencontrent, alors on va les passer un petit peu en revue, mais leur problème c'est quelque part que le monde n'est pas fait pour eux, enfin, c'est pas eux qui sont forcément inadaptés, c'est ça? Comment on peut dire ça?
C'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est leur cerveau qui marche d'une manière un peu différente et qui filtre les informations sensorielles de manière différente, ce qui est un moindre problème dans un monde naturel, ce qui était un moindre problème il y a plusieurs générations et qui est nettement majoré effectivement par notre monde moderne, puisque les stimulations que nos sens reçoivent dans ce monde-là peuvent effectivement tous nous déborder, j'ai envie de dire. Il y a des exemples très typiques où je pense que quasiment tous nos auditeurs, rien qu'à l'évocation, vont surcharger, tels que le samedi matin, dans le supermarché, quand il y a la foule et que tout le monde nous bouscule et que ça clignote de partout.
Plus des animations.
Voilà, ça... Ça n'existait pas il y a 50 ans et c'est quelque chose qui surchargerait à peu près tous les systèmes sensoriels qui soient. De même que la réalité de rester 8 heures en classe assis alors que les générations suivantes avaient beaucoup plus de temps et d'espace pour bouger, pour réguler leur système sensoriel et aussi pour expérimenter sensoriellement, parce que le cerveau a aussi besoin de s'habituer aux sensations et qu'on ait une civilisation où nos enfants ont de moins en moins d'espace pour explorer. Donc il y a toutes les causes neurodéveloppementales, effectivement, mais il y a aussi une déconnexion à ces sensations-là qui fait que notre cerveau ne s'habitue pas et du coup peut rester hypersensible à des stimulations.
Et sans oublier les écrans qui ne sollicitent finalement que 2-3 sens, pas plus, enfin 2 même. La vue et l'ouïe, en gros. Enfin, la vue, oui, c'est ça.
Oui, et même là, de manière passive. Donc, ce n'est pas forcément non plus... Ça ne permet pas non plus au cerveau de construire la régulation sensorielle, puisque, à l'inverse d'un livre, par exemple, regarder un écran, c'est passif. Et du coup, ça n'entraîne pas du tout le cerveau à gérer les stimuli visuels.
Et puis, il y a vraiment ce problème aussi d'enfants. Bon, alors, sédentaire, mais coupé du dehors, enfin, plus généralement. Parce que qu'est-ce que c'est le dehors? Qu'est-ce que ça nous importe à nous, chasseurs-cueilleurs, anciens chasseurs-cueilleurs?
Exactement. Là, tu prêches une grande convaincue. Je pense qu'on peut parler des études de l'OMS qui montrent que la déconnexion à la nature engendre... On a un nom maintenant, ça s'appelle le trouble de manque de nature. Et du coup, c'est un diagnostic de l'OMS qui parle de...
Organisation mondiale de la santé,
ouais,
je précise.
Effectivement, qui parle de toutes les conséquences sur les jeunes générations du manque de contact avec la nature. Et dedans, tu peux lister l'obésité, la dépression, les troubles sensoriels, un certain nombre de choses qui, n'ayant pas le mouvement et l'activité nécessaires en extérieur, les corps modernes sont en souffrance.
Donc là, on se rend compte que même en n'ayant pas de troubles diagnostiqués, en tout cas, on peut avoir des problèmes sensoriels. Et puis, de toute façon, il y a d'autres handicaps, comme on dit, hein, tout simplement, des enfants qui ont des déficits, enfin des enfants ou des adultes, hein, qu'on appelle des déficits sensoriels, dont j'imagine Brin d'éveil s'occupe aussi, parfois.
Ouais, j'ai envie de dire, en fait, on a tous l'impression qu'on perçoit le monde de la même manière et qu'une perception, elle est universelle. Et en fait, il y a plein de petits jeux amusants à faire pour se rendre compte que si on teste, ne serait-ce qu'un repas, les yeux masqués ou des choses comme ça, et ben en fait, on est tous unique dans notre perception et qu'on a tous nos petites hyper et nos petites hypo. Là où ça questionne, c'est quand ça devient handicap. Et effectivement, à Brin d'éveil, on reçoit des enfants pour qui, je prends un exemple, l'exemple que j'avais pris la dernière fois, j'ai un enfant, les premières fois où il s'est mouillé sur la Forest School, il se jetait au sol de douleur tellement c'était compliqué sensoriellement. Voilà, c'était un enfant avec un TSA, effectivement, donc avait une grosse hypersensibilité tactile. Et quand c'est à ce niveau-là de dérégulation de la perception sensorielle, ça devient très handicapant, effectivement. Maintenant, l'un nourrit l'autre, parce que quand on a ce genre de difficulté, c'est beaucoup plus facile de vivre le monde derrière un écran et de ne pas avoir à prendre le risque de tout ça, de ne pas avoir à prendre le risque de l'interaction sociale qui génère énormément de stimulation sensorielle. Il n'y a pas plus stimulant sensoriellement que d'être avec un autre humain qui risque de vous toucher, qui bouge dans tous les sens, qui émet plein de sons imprévisibles. Et c'est souvent aussi pour ça que la relation sociale est coûteuse pour les enfants avec autisme. C'est pas nécessairement un manque d'envie d'être en relation, c'est parce que sensoriellement, c'est un tel chaos, l'être humain, sensoriellement, que du coup, c'est plus facile d'éviter ça plutôt que d'être en surcharge à cause de tout ce que ça génère d'être en relation.
Et puis, il y a les déficits sensoriels. Comme je disais, quelqu'un qui est un enfant qui est malentendant, je crois qu'il en vient à Brin d'éveil.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces enfants ?
Tu veux bien
qu'ils sont malentendants. Ils sont voilà.
Du coup, pour le coup, sur la Forest School, notre parti pris, c'est de venir nourrir tous les autres sens. C'est des enfants qui vont, du coup, venir enrichir encore plus leur vie. Parce que, du coup, pour le coup, privé de l'audition et en intérieur, ça réduit d'autant plus les explorations possibles. Surtout que, faut pas se le cacher, avoir un enfant avec des troubles de l'audition, ça, j'imagine, en tout cas, je ne suis pas maman, mais moi, ça me mettrait en grande insécurité de laisser mon enfant aller explorer librement, alors que je peux pas le rappeler, alors qu'il va rater plein d'informations auditives qui pourraient l'alerter et le mettre en sécurité. Et du coup, c'est des enfants qui n'ont pas forcément non plus beaucoup d'occasions d'explorer. Et du coup, sur Brin d'éveil, ils ont cette possibilité-là d'explorer librement, dans un grand espace, plein de choses très sensorielles qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'explorer. Et du coup, de construire tout un autre répertoire de rapport au monde qui va leur être extrêmement utile dans le développement de leur cerveau et dans leur développement dans la relation à l'autre et dans leur relation au monde.
Alors nous aussi, on va explorer, justement, on va aller dans la Forest School, on va se projeter et on va voir qu'est-ce que vous, Tiffaine, vous proposez alors c'est pas de la rééducation sensorielle, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est pas de l'autorégulation, enfin ces enfants peuvent pas forcément s'autoréguler, c'est ça ? C'est quoi en fait
Alors on pourrait parler de désensibilisation, mais moi j'aime pas trop ce terme parce qu'il est utilisé d'autres manières sur d'autres choses et que surtout c'est mené par l'enfant et du coup la désensibilisation en cabinet c'est quelque chose de très guidé et de très obligatoire, j'ai envie de dire. Nous on parle plutôt de d'habituation sensorielle sur la Forest School. Et on parle aussi de régulation sensorielle, mais du coup, c'est de la régulation autonome. Du coup, il y a deux aspects. La première, c'est d'apprendre aux enfants à se connaître eux-mêmes et à savoir identifier là où c'est compliqué quand ils arrivent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Déjà, je dirais, le premier travail, c'est de les aider à comprendre ce qui se passe pour eux et d'accepter que ça se passe comme ça pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, et d'adultes, hein, parce que finalement, on finit toujours par travailler avec les adultes. Oui. Dans le rejet de ces particularités sensorielles, on est beaucoup à les masquer, à faire avec et à prendre et à finir nos journées crevées, parce qu'on a fait comme si ça allait bien alors que tout est coûteux.
Ou à les contourner, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Soit à les éviter, soit à les subir sans rien dire, notamment dans la relation à l'autre. Et je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui se retrouveront dans ce truc de j'ai passé une journée à faire plein de choses et à 16h30, je suis juste épuisée de ma vie parce qu'en fait, j'ai pas pris en compte ce qui était difficile pour moi. Et il y a beaucoup d'enfants à l'école, notamment, subir les néons au-dessus de leur tête, les petits camarades qui les frôlent toute la journée. C'est excessivement coûteux, alors ils le font.
Ou le bruit ambiant, parce que...
Ou le bruit ambiant.
Je ne voudrais pas citer de nom, mais j'étais dans une classe hier de 25 élèves de seconde et qui ne savent jamais s'arrêter de parler ou de faire du bruit.
Oui, alors on peut citer la cantine de l'école. N'importe qui, après 2 heures de cantine, est épuisé sensoriellement. On est bien d'accord.
Sauf les rares cantines où on a travaillé justement sur l'acoustique générale,
c'est
mais vrai. C'est rare.
Mais voilà, j'ai perdu le fil.
Oui, bah, là, on était sur les d'apprendre à ne pas trop s'épuiser. Ouais,
donc déjà, nous, sur la Forest School, on leur apprend à se connaître et... À valoriser le fait de ces particularités-là parce que finalement, et là c'est vraiment quelque chose que je viens de défendre sur la neurodiversité qui est vraiment au cœur de Brin d'éveil, ces particularités sensorielles-là, elles peuvent être handicapantes mais ça peut aussi être des super pouvoirs.
Ah oui, comment par exemple ?
Je vais parler des enfants TDAH par exemple qui souvent ont une perception trop fine, qui ne filtrent pas beaucoup l'information. C'est mon cas.
Donc toutes les informations sensorielles,
ont tendance à tout capter et du coup c'est très dur de se concentrer quand toutes les informations passent de la même manière. Un cerveau neurotypique va trier les informations,
oui,
ne pas laisser tout passer. Un enfant TDAH, pas forcément. Mes 15 ans d'expérience auprès de ce public-là me font témoigner que mis dans une forêt, mais c'est des pisteurs incroyables. C'est les premiers à voir les traces de pas, c'est les premiers à identifier un son, c'est les premiers à voir une trace d'animaux dans la nature. Ils sont incroyables.
Ah oui.
Souvent. C'est souvent mes enfants avec un diagnostic TDAH qui vont choper des informations dans l'environnement que personne n'avait vu. Parce que cette hypersensibilité-là, dans la nature, ça peut être une force, clairement.
Ça ne les empêchera pas de se fatiguer pour autant, j'imagine.
Eh bien, la réalité, c'est aussi que ce qui fatigue le système sensoriel, c'est souvent les stimulations artificielles, j'ai envie de dire. Un néon fatigue le cerveau nettement plus que la lumière du soleil, à moins de l'avoir en plein dans la figure. Mais ça va de la même manière sur les sons qu'on peut percevoir. Les sons dans la nature sont déjà beaucoup plus feutrés, sont beaucoup plus dispersés et sont moins agressifs pour le cerveau parce que le cerveau est fait pour.
C'est vrai qu'il n'y a pas de réverb dans la nature, sauf peut-être dans une grotte. Mais la réverbération, ça peut être du son, ça peut être très fatigant.
Oui, c'est vrai. Et pour lui, la vue... Et l'odorat, à part quand nos agriculteurs, parfois, il y a moins de surstimulation possible en nature. Donc, c'est aussi une réalité de les enfants qui viennent à Brin d'éveil. Rien que le fait d'être 2 heures dans un milieu qui n'agresse pas leur sens, ça permet à leur système nerveux de se calmer. Parce que tout ça, c'est aussi une question de nous tous et eux. Bien plus vite, quand il y a une surcharge sensorielle, c'est le système nerveux qui se déclenche et qui fait passer nos petits corps en mode survie. Et là, effectivement, nos petits corps en mode survie, il n'y a pas 20 000 choix. C'est soit la fuite, soit l'attaque, soit la paralysie. Et ça, ce n'est pas drôle pour le cerveau, ce n'est pas drôle pour le corps. Et c'est nul pour les relations humaines.
Oui, ça veut dire que, par exemple, sur les odeurs, si on prend les odeurs purement naturelles, il y a finalement majoritairement des odeurs agréables. Et puis de toute façon, il faut avoir le nez dessus, c'est ça.
C'est
et puis,
ça, c'est pas agressif.
Et il y a peu d'odeurs désagréables dans la nature. Il y en a, ça existe, les plantes qui attirent les mouches avec des horribles odeurs.
Oui, mais comme tu dis, c'est rare que, qu'elles prennent tout l'air autour de toi et que tu ne puisses pas t'en extraire, à moins que tu tombes la tête dans des excréments. Mais là, tu peux aller te laver, effectivement. Mais sinon, c'est pas particulièrement agressif. Et en forêt, si on parle de la luminosité, c'est ce qu'on a tendance à recréer chez nous, du soleil filtré par les feuilles.
Exact, parce que c'est vrai que la lumière peut être un gros problème pour les personnes autistes, par exemple, et le soleil direct, en tout cas. Et là, on se met sous un arbre.
Exactement.
Ouf,
génial. Et puis, il y a moins d'éléments qu'on est censé percevoir. On parlait de l'environnement de la classe. Moi, j'ai vu pas mal de classes où les maîtresses ultra motivées mettaient des affichages absolument partout. Ce qui est génial, parce que du coup, il y a plein d'informations pour que les enfants mémorisent. C'est parfait pour certains enfants.
Oui, parce qu'ils vont regarder toutes les affiches et ils vont rien retenir, d'accord.
Et puis pour d'autres, du coup, après, quand il faut aller chercher une information et qu'il y en a dans tous les sens, si le cerveau n'est pas capable de filtrer, c'est juste impossible. Et en plus, ça peut venir parasiter les autres sens. Parce que, effectivement, on peut avoir un déficit de traitement par sens, mais on peut aussi avoir des difficultés entre sens, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, et là je peux prendre mon exemple pratique, quand la vue est trop stimulée, et ben, Louis coupe, hop, c'est trop, alors on va couper un sens.
Et oui, c'est une défense comme une autre.
Ben ouais. Et là, il y a beaucoup de parents d'enfants TDAH qui se reconnaîtront, ce petit truc où on appelle nos enfants 20 000 fois et bah,
il m'entend pas.
Il fait exprès, il m'entend pas. Et non, mais non, il est juste tellement pris visuellement et tactilement que les oreilles ne sont plus câblées pour recevoir l'information. Et le filtre fait trop bien son boulot. Et c'est pas l'enfant qui a pas envie d'écouter, c'est juste, c'est pas possible de traiter un nombre trop élevé de stimuli. Alors ça coupe.
Donc pour Louis, pour la vue, pour l'odorat, il n'y a pas vraiment de désensibilisation, mais il y a le fait de se connaître et de pouvoir être capable de se préserver grâce à la forêt, enfin, grâce à la pratique de la nature.
Il y a quand même une histoire d'habituation, effectivement, mais c'est pas des sens qu'on peut rééduquer réellement avec des exercices de désensibilisation. Louis, ça se travaille. Il y a des thérapies d'intégration sensorielle par Louis.
Les gens qui sont hyperacousiques, comme
c'est
on dit,
ça, exactement.
C'est ça.
Ouais, ou il y a des enfants qui captent certaines fréquences et pas d'autres. Il y a eu des études sur chez les enfants TSA, notamment le fait que chez nous, personnes neurotypiques, le cerveau capte différemment la voix humaine du reste. Ce qui est vachement pratique quand même, parce que quand je te parle, tu entends vachement moins la voiture qui passe dans la rue. Chez les enfants autistes, c'est pas le cas. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants autistes pour qui, s'il y a plein de bruit et une voix humaine, le cerveau ne peut pas choisir la voix humaine. Du coup, c'est vachement plus compliqué de se concentrer sur une conversation. Tu imagines la fatigue que ça engendre.
Mm-hmm. Oui, on imagine bien. Et donc, pour ces autres sens, alors moi, j'ai appris récemment, grâce à une précédente émission avec Tiffaine, qu'il y avait en fait 7 sens. Alors, le goût, je ne sais pas si on peut en parler vraiment. Si, dans la Forest School, il y a moyen de manger. Hein,
ouais, figure-toi que moi, j'aimerais presque ouvrir des ateliers Forest School sur la désensibilisation au goût.
C'est la question que j'allais poser. Ouais.
Mon constat depuis 8 ans, c'est qu'en fait, c'est très puissant. Il y a des enfants qui ont des particularités alimentaires, c'est le cas dans les TSA, et des enfants en général qui du coup ont une hypersensibilité au niveau des aliments et qui mangent très peu de choses parce que tout est compliqué, ça se retrouve beaucoup.
Et le problème n'est pas forcément le goût lui-même, c'est plutôt la texture, enfin, c'est presque
tactile.
Ouais.
Il y a des enfants c'est le goût, il y a des enfants c'est la texture, il y a des enfants c'est même visuel avant de mettre l'aliment en bouche. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque expérience négative, ça s'ancre encore plus dans le cerveau que ça peut être un danger. Donc tout enfant forcé à manger ces aliments-là, ça va pas forcément dans le temps être porteur.
Il y aura pas d'habituation.
Non,
quoi.
L'habituation sera plutôt au traumatisme.
Ce sera un rejet.
À l'inverse.
Ouais. D'accord. Je comprends.
À l'inverse, nous ce qu'on constate depuis des années dans les forest schools, c'est avec l'accueil des tout petits, à quel point bizarrement quand on est en train de cuisiner des légumes sur le feu de bois, il y a plein de parents qui nous disent waouh. Mais ils mangent des légumes ici, comment vous faites ?
Ah, grâce au feu de bois.
C'est l'expérience, effectivement, c'est l'expérience émotionnelle, et ce sera vrai pour tous les sens, c'est l'expérience émotionnelle que l'enfant est en train de vivre, qui va venir marquer dans le cerveau différemment l'expérience sensorielle. Et du coup, le fait de venir manger les carottes de la forest school, cuisiner pendant qu'on est en train de parler des petits lapins, etc., autour du feu, en chantant, c'est pas du tout la même expérience que d'être à la cantine et d'avoir l'assiette de carottes devant le nez. Et du coup, le fait de venir vivre ces expériences décalées, j'ai envie de dire, par rapport au quotidien, ça permet à beaucoup d'enfants de s'autoriser à refaire l'expérience d'aliments qu'ils excluaient avant et d'en vivre une expérience positive qui va permettre d'ouvrir des portes qui n'étaient pas forcément ouvertes jusque-là.
Et légalement, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si le terme est bon, mais ça ne pose pas de problème de faire manger aux enfants des aliments qui sont cuisinés sur place ou,
On respecte toutes les normes HACCP recommandées sur le transport des aliments et le nettoyage, etc. Donc non, ce n'est pas un problème.
Très intéressant. Et alors, il y a tout l'aspect, donc on l'a un petit peu évoqué avec les textures dans la bouche, mais tout l'aspect donc, lié plutôt, on va dire, au tactile, sachant qu'il y a d'autres sens qui s'y ajoute, c'est la proprioception, perception de son corps dans l'espace et en intérieur, enfin sentir ses organes si on veut, et puis le système vestibulaire, enfin la gestion de l'équilibre. Donc c'est des sens qui sont peut-être liés au tactile, on pourrait dire si on élargissait, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour le tactile strict, j'en reviens à cet enfant qui ne supportait pas d'être mouillé. Comment ça s'est réglé cette question?
Alors réglé. Je ne vais pas vendre des miracles aux gens, ce n'est pas mon genre. Ça ne s'est pas réglé. Par contre, c'est un petit garçon qui, maintenant, transporte des branches mouillées. Sa dernière séance, il s'est renversé un seau sur le pied. Il me l'a dit 10 minutes plus tard. Il m'a dit, ah, c'est pénible quand même, hein, c'est difficile.
Mais personne n'aime trop ça, je crois. Hein.
Mais on était en train de jouer à cache-cache. Et du coup, ce n'était pas la priorité d'aller changer le pantalon.
Ouais.
Et du coup, il a géré. Et en fait, c'est vraiment cette histoire d'expérience positive. Alors déjà, ce que je trouve important à dire, c'est qu'à Brin d'Éveil, on ne va jamais forcer l'expérience sensorielle.
Bien sûr.
Voir, tout est pensé sur la Forest School pour que tous les enfants qui ont besoin de ne pas l'affronter frontalement n'aient pas à l'affronter. Je prends un exemple tout bête, mais sur une Forest School classique, on peut avoir à se mettre à genoux au sol pour faire le feu. À Brin d'Éveil, on a des petits tapis sous la main au cas où ça paraît très compliqué pour les enfants de venir mouiller leurs pantalons s'ils ne sont pas bien équipés. C'est pensé en amont. De la même manière, si un enfant ne veut pas toucher la terre, aucun problème, il ne touchera pas la terre tant que ça sera pas son envie.
Et souvent, ça devient son envie.
Eh bien, quand le groupe va aller construire des cabanes dans la forêt ou construire un circuit d'eau géant ou faire des batailles de feuilles mortes, l'intérêt social de cette expérience-là va, alors de mon expérience quasiment toujours, passer avant l'appréhension sensorielle. Et l'enfant, il ira quand il sera prêt. On a quelque chose très à cœur à Brin d'Éveil qui s'appelle l'autodétermination, qui est le fait de faire confiance dans les enfants, d'aller vivre cette expérience-là quand leur cerveau sera apaisé, quand l'activité les appellera et quand ce sera le bon moment. Et du coup, comme il y a le pilier de la pédagogie par la nature qui est la récurrence, les enfants, on les voit souvent.
Oui,
c'est pas une
sûr.
Expérience unique, ils viennent plein de fois dans l'année. Et du coup, il y a un moment de temps où leur cerveau, ce sera le bonjour et où l'activité va être tellement enthousiasmante qu'ils vont y aller et qu'ils vont passer un bon moment. Et du coup, la fois d'après, ils auront envie de revivre ce truc-là, même si c'était intense. Et au fur et à mesure d'expériences multipliées de cette manière-là, leur système sensoriel, leur avec un S, système sensoriel avec des S, va s'habituer aux sensations et ça va devenir moins handicapant.
Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des séances en solo pour peut-être apprivoiser un peu les problèmes et des séances collectives pour motiver, c'est ça ? Enfin, est-ce que c'est toujours
comme
ça ? Non,
ça dépend vraiment des enfants. Ouais. Il y a des enfants, le collectif va suffire, sachant que sur les groupes d'habilité sociale, ça c'est des choses qu'on discute et qu'on travaille, sachant que le fait que je sois aussi père aidante, c'est-à-dire moi-même concernée, fait que c'est facile pour moi de discuter avec le groupe en mode « Alors, qu'est-ce qui est horrible pour vous sensoriellement ? Je peux parler de moi, je vais vous dire. » Quand vous faites tiffen, 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 tiffen pendant une demi-heure, mon système auditif pète un watt, ce n'est pas possible.
D'accord.
Et du coup, ça ouvre la parole de manière égalitaire. Chaque enfant va pouvoir dire, moi, ce que je ne supporte pas, c'est de me faire éclabousser. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on vienne me toucher sur l'épaule sans me prévenir. Et du coup, ensuite, on trouve des solutions ensemble. Alors voilà, maintenant qu'on sait ça, comment on peut prendre collectivement soin d'un tel qui ne veut pas être mouillé ? Comment on peut prendre soin de soi des oreilles de Tiffen en ne faisant pas Tiffen, 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 Tiffen ? Les enfants qui écoutent aujourd'hui, ça va les faire beaucoup rire parce que c'est une blague entre nous.
Ils sont combien ? Enfin, ça va jusqu'à combien ces groupes d'habileté sociale ?
Alors, notre plus gros groupe, c'est 10 et on ne montera pas au-dessus.
Oui, c'est déjà pas mal.
Parce que pour se donner les moyens de respecter leur sécurité affective et d'être disponible à leurs besoins, on est sur un taux d'encadrement à Brin d'Éveil, maximum un adulte pour 3 enfants. Comme je disais la dernière fois, il y a des enfants où on est 2 adultes pour un enfant quand les difficultés sont vraiment sévères. Voilà, ça dépend.
Oui, parce qu'on ne l'a pas redit, mais Brin d'Éveil a d'autres partenaires. Hein, c'est ça qui font de la médiation animale, je ne sais pas, enfin, d'autres...
Oui, et puis on est une grosse équipe maintenant. Quand tu étais venue il y a quelques années, on était 2-3. Et en fait, maintenant, on est une dizaine de professionnels sur la structure. Et du coup, il y a des bénévoles en formation, il y a des professionnels qui sont rémunérés. Et du coup, on se donne les moyens d'avoir un taux d'encadrement qui correspond au groupe. Donc il y a des groupes où le taux d'encadrement est un peu plus faible, mais il y a un adulte spécifique pour un enfant. Il y a des groupes, des tout petits groupes. Tu vois, hier j'avais un groupe structure, on était 2 adultes pour 3 enfants, et c'était très bien comme ça. On évalue en fait un peu en fonction des profils, mais de toute façon on ne descend pas en dessous d'un adulte pour 3 enfants pour que qu'on puisse être disponible aux besoins de chaque enfant.
Alors, on a peut-être 2 minutes là pour parler de ces 2 sens moins connus qui sont la proprioception et le système vestibulaire. Ouais. Bon, là, il y a même pas peut-être d'exercice à faire. Le fait d'être dans la nature suffira.
Eh ben moi, je vais en profiter sur le système vestibulaire parce que je me retrouve souvent à parler aux gens de l'importance de tout ce qui est balancement. Dans le système, dans la régulation nerveuse, c'est pas pour rien que les enfants autistes ils se balancent et nous
on se berce, on s'auto-berce. Oui, je vois très bien que tu fais tournicote sur son siège, mais ça voilà. ça grince pas trop.
Et ben c'est un besoin du cerveau. Le balancement dans la construction des tout petits. J'avais cette semaine un parent qui s'étonnait et qui presque avait du mal avec le fait que son enfant avait envie d'être tout le temps dans le hamac quand il venait à la school. Avec qui j'ai eu cette discussion de mais en fait. S'il fait ça, c'est qu'aujourd'hui, son cerveau est en train de construire la partie vestibulaire et qu'il en a besoin. Et alors, j'appelle à toutes les collectivités. Si dans tous les lieux de vie, on avait des hamacs ou des balançoires ou ce genre de choses.
Des ballons peut-être aussi, les gros ballons sur lesquels on peut s'asseoir.
J'invite les écoles à avoir toujours ce genre de support. Il y a beaucoup d'enfants qui seraient plus disponibles à la relation et à l'apprentissage parce que c'est rien que le balancement. Comme la proprioception, c'est des choses qui permettent au système nerveux de s'apaiser. Et une fois le système nerveux apaisé, c'est là que la mémorisation et les compétences relationnelles sont disponibles. En fait. Quand on est stressé, tous, chacun d'entre nous, plus on est stressé, et moins on est en capacité d'apprendre et d'être en relation. Donc voilà, à Brin d'Éveil, on a plein d'infrastructures pensées pour qu'à tout moment, si un enfant a besoin de se sentir serré ou de se balancer, il y ait de quoi faire. Et je pense que c'est le cas de toutes les forêts school pour le coup.
Eh bien, merci beaucoup, Tiffaine. On retrouvera Brin d'Éveil très bientôt, parce qu'on fait un petit cycle. Hein.
Super.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Et c'est la fin de ce LEM que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio, comme tous les autres. Mais restez avec nous, car les ondes ne s'arrêtent jamais.